Nous recevons Bernard Lahire. Bernard Lahire est né à Lyon en 1963. Il est docteur en sociologie. Il est actuellement, il est professeur de sociologie à l'École normale supérieure Lettres et sciences humaines à Lyon, qui est une école qui n'est pas encore connue puisqu'elle va ouvrir en septembre-octobre et qu'elle est issue de la décentralisation de l'ENS Fontenay-Saint-Cloud. Il est spécialiste de la sociologie de la culture, de la sociologie de l'éducation et de la sociologie de la connaissance. Il est membre de l'Institut universitaire de France, membre du groupe de recherche sur la socialisation qui dépend du CNRS et de Lyon. Et parmi ses publications, j'en mentionnerai un certain nombre. Tout d'abord, « Culture écrite et inégalité scolaire, sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire », qui est paru aux presses universitaires de Lyon en 1993. « La raison des plus faibles, rapport au travail, écriture domestique et lecture en milieu populaire », qui est paru aux presses universitaires de Lille en 1993, qui est actuellement épuisé, mais que vous pouvez retrouver néanmoins dans les bonnes bibliothèques. Les manières d'étudier, qui est paru à la Documentation française en 1997. L'homme pluriel, les ressorts de l'action, qui est paru chez Nathan, collection Essais et Recherches en 1998. Il a dirigé Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, Dettes et critiques, qui est paru aux éditions de La Découverte en 1999. Et il a écrit L'invention de l'illettrisme, rhétorique publique, éthique et stigmate, qui est paru aux éditions de La Découverte en 1999. Bernard Lahire, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat pourra suivre avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Je vous remercie. J'ai intitulé cette conférence « L'illettrisme ou le monde social à l'aune de la culture ». Alors, de quoi s'agit-il ? On pourrait dire que il y a un constat à faire aujourd'hui, c'est que malgré plusieurs siècles d'histoire scolaire, la France connaît de grandes inégalités sociales en matière de maîtrise de l'écrit, du côté lecture comme du côté écriture. Le constat est certain. Et il n'est d'ailleurs pas très surprenant pour des sociologues de l'éducation et de la culture qui mesurent maintenant depuis plusieurs décennies les inégalités d'accès au savoir scolaire, aux œuvres et aux institutions culturelles. Il est tout aussi évident qu'aucun démocrate ne peut trouver acceptable cette situation d'inégalité face à des instruments aussi fondamentaux de la culture. Mais ce constat d'inégalité est-il directement en lien avec les discours publics, médiatiques, politiques, savants aussi, sur l'illettrisme des Français qui fleurissent depuis plus de 15 ans maintenant? On pourrait croire en effet que ces discours sur l'illettrisme ne font qu'exprimer une réalité sociale objective, ne font que l'accompagner. Et pourtant, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et pour remettre en évidence, cette évidence, cette évidence qui est trompeuse, il faut refaire un peu l'histoire de ces 20 dernières années. La montée publique de l'intérêt pour le problème peut laisser penser, et beaucoup de commentateurs ne se privent pas de l'écrire, que l'on assiste à l'extension ou à l'amplification du problème réel lui-même. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que cela est faux. Il n'y a pas montée du problème réel des difficultés que les gens peuvent avoir avec l'écrit. Ce que l'on peut en revanche dire, avec certitude aussi, c'est que les problèmes de maîtrise de l'écrit étaient bien plus importants à l'époque où l'on n'en parlait pas qu'aujourd'hui où les discours foisonnent. Ce sont ces discours que j'ai assez récemment étudiés, l'ouvrage a été cité, en menant l'analyse socio-historique de la construction publique de l'illettrisme comme un problème social, et notamment l'étude rhétorique des manières de parler de l'illettrisme depuis la création du mouvement athée des Quart-Monde dans les années 60, qui a été l'inventeur de ce néologisme vers 1978, jusqu'à nos jours. L'objet de mon attention est donc un objet politique. Il concerne l'État, les médias, les discours publics de dénonciation d'une injustice et de revendication d'une cause, les producteurs amateurs, mais souvent professionnels, d'idéologie, les concurrences entre ces producteurs, puisqu'il y en a, les mythologies, enfin, qui entendent donner sens à nos vies, qui catégorisent, qui évaluent, qui jugent et souvent aussi, malheureusement, qui stigmatisent. Le philosophe Michel Foucault disait lors de sa leçon inaugurale au Collège de France qu'il y a dans toute société deux grands types de discours, deux grandes catégories de discours. Celle des discours éphémères qui se disent au fil des jours et des échanges et qui passent avec l'acte même qui les a prononcés, et celle de discours, je le cite, qui sont dits, restent dits et sont encore à dire. Cette seconde catégorie de discours, répétée inlassablement, commentée, indéfiniment, crée ce que j'appelle des habitudes discursives, des habitudes de discours. Et lorsque des habitudes bonnes ou mauvaises, peu importe, sont prises, on sait bien qu'il faut accomplir un effort considérable pour parvenir à s'en défaire, et même, avant cela, pour parvenir à en prendre conscience. La sociologie qui étudie les discours en tant qu'acte de nomination et d'institution du monde social a donc pour rôle, d'une certaine façon, de réveiller nos consciences un peu somnolentes, et la conscience somnolente du sociologue avant qu'il ait mené son étude, ça commence par lui. La sociologie donc essaye de nous aider à reprendre conscience, à nous reprendre, comme on dit ordinairement, alors que nous sommes bien souvent sur pilote discursif automatique, on pourrait utiliser cette expression, c'est-à-dire qu'on est conduit par des habitudes discursives qu'on met en œuvre sans même avoir à y penser. Cette idée d'ailleurs d'habitude discursive permet de comprendre un paradoxe apparent, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de discours publics souvent préparés et travaillés, à savoir que les producteurs comme les récepteurs de ces discours peuvent, à force d'y être exposés ou de s'y exposer, acquérir de telles habitudes sans maîtriser exactement le sens de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils écoutent ou de ce qu'ils lisent. L'habitude est bien ce qui rend possible la suspension du jugement critique ou du doute, et en tout cas du doute ou de la critique systématique et durable, sur le sens des énoncés, sur leur degré de justesse, sur leurs présupposés et leurs implications. On pourrait citer Pascal, le philosophe qui parlait de l'habitude. Il disait que l'habitude, sans violence, sans art, sans argument, nous fait croire les choses et incline toutes nos puissances à cette croyance en sorte que notre âme y tombe naturellement. Alors, à quoi sert une sociologie des problèmes sociaux ? Petit préalable avant de rentrer dans la question. Déjà, un simple retour réflexif sur la situation présente que nous vivons en ce moment m'oblige à reconnaître que cette conférence contribue, elle aussi, au moins au départ, à faire exister socialement, publiquement, le problème social appelé illettrisme, ne serait-ce que parce que le terme illettrisme figure dans le titre et qu'il a été publié un petit peu partout dans les médias qui ont été évoqués. La seule différence par rapport à la grande masse des discours qui se tiennent sur le sujet réside dans le fait que je n'ai pas l'intention de confirmer les lieux communs habituels sur la question, en inventer quelques-uns de plus, ou bien ajouter une poussée de commisération personnelle sur le thème. Bon. Et sur le thème notamment qui est assez classique aujourd'hui, à savoir la vie infernale que vivent tous les illettrés à chaque minute, dans leur handicap, etc., etc. Alors, je voudrais simplement préciser qu'il serait bien plus facile pour moi et gratifiant de me livrer à ce genre d'exercice que de défaire les lieux communs et de m'interroger sur les fonctions sociales, symboliques et politiques des discours sur le sujet. En décevant nécessairement les attentes, j'imagine, d'une bonne partie de ceux qui sont venus m'écouter aujourd'hui, pour entendre parler d'illettrisme dans le sens du problème réel des illettrés, des causes et des conséquences du phénomène, des remèdes qu'il s'agirait d'y apporter, etc., etc. Une fois qu'un problème social a été suffisamment durci, on pourrait utiliser cette expression, par plusieurs années de discours publics, d'enquêtes statistiques, d'actes d'institutionnalisation et d'officialisation de toutes sortes, une fois qu'il a été intégré par l'État sous la forme d'un organisme ou d'un groupe permanent, une fois qu'on y a définitivement associé des souffrances humaines, et que plus personne n'ose ou ne pense à s'interroger sur son degré de réalité ou sur la nature de cette réalité. Il devient particulièrement difficile de produire le moindre doute à son sujet, et un travail de reconstruction historique du problème peut même être perçu comme une véritable provocation morale et politique. Je me sens donc, par conséquent, étant donné ce que je viens de dire, dans la nécessité de préciser une chose, c'est que j'ai évidemment la plus haute estime pour tous ceux qui, loin des scènes publiques, tentent avec difficulté, mais souvent avec beaucoup plus de succès qu'on ne le dit ou qu'on ne le croit, de faire entrer des adultes, jeunes ou moins jeunes, dans l'écrit, et que l'analyse critique des discours publics sur l'illettrisme n'est pas une remise en question de leur pratique et de leur mission. Il s'agit bien au contraire d'aider à défaire de fausses évidences produites par des producteurs professionnels de discours qui ne sont pas eux-mêmes, dans la grande majorité des cas, des praticiens, et qui, pour une grande partie d'entre eux, se servent plus du problème, à mon avis, qu'ils ne le servent vraiment. Les flous sémantiques, les raisonnements bancals, les lourds présupposés, les enchaînements automatiques, préconstruites d'idées, peuvent toujours se convertir en difficultés réelles d'action. Et c'est bien là qu'il y a problème. Si les discours n'avaient pas d'effet sur la manière dont nous organisons le monde social, alors il ne vaudrait pas la peine qu'on s'y attarde en tant que sociologue ou en tant qu'historien. Si ça ne conduisait pas à une série de difficultés dans la définition d'objectifs précis des actions de formation, si ça ne conduisait pas à de mauvais dispositifs institutionnels, si ça ne conduisait pas à des contradictions, à des malaises, à des malentendus, eh bien, effectivement, l'analyse des discours n'aurait aucun intérêt. Une analyse des discours sur l'illettrisme est donc une sorte de service public rendu à un objet social qui est mal parlé ou parfois étrangement parlé. Lorsque le sociologue ou l'historien fait correctement son travail, il contribue de plus à rendre plus difficiles les manipulations rhétoriques, les trafics discursifs, les opérations de détournement symbolique et les pièges de discours qui, évidemment, se jouent par-dessus la tête des 10 illettrés. Alors, j'espère que vous voudrez bien excuser ces préalables que je me sentais dans l'obligation de faire pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Mais c'est vrai que la sociologie est l'une des rares sciences qui, étant donné sa fonction critique, est forcée parfois, pour faire tomber des malentendus, de passer autant de temps à expliquer et à justifier sa démarche qu'à livrer les résultats de ses analyses. Alors je vous rassure, je n'ai fait à peu près que 10 minutes jusque-là. Je vais faire plus du côté résultat que du côté préalable. Alors il est impossible, faute de temps, de vous proposer l'analyse rhétorique complète des discours sur l'illettrisme de 1978 à aujourd'hui. Parmi les acquis de ces analyses, il faudrait rappeler le flou actuel qui caractérise la notion d'illettrisme, flou qui est à la fois le produit collectif de l'existence de multidéfinitions, mais aussi le produit plus individuel de l'usage conjoncturel, circonstancié de définitions différentes. Il faudrait aussi montrer l'usage rhétorique qui est fait des données chiffrées. Selon les cas, il y a des milliers d'illettrés, dans d'autres cas, il y a des dizaines de millions d'illettrés dans notre pays. Cet usage rhétorique des chiffres est là souvent pour affirmer d'une part que le problème est large, étendu, et d'autre part que le phénomène va en s'aggravant et que l'on enregistre une croissance régulière ou spectaculaire des cas observés. Il serait de même, encore plus de manière importante, nécessaire de souligner l'abus des exemples dramatiques qui visent à provoquer un choc émotionnel chez le lecteur ou chez l'auditeur et finissent par stigmatiser les populations en difficulté avec l'écrit. De tels exemples correspondent en fait à ce que les rhétoriciens appelaient « fantasia ». Ce sont des exemples frappants, concrets, souvent visuels, qui accentuent les détails horribles et nous mettent le drame ante oculos, comme disait Cicéron, c'est-à-dire devant les yeux. Alors, dans le cas de l'illettrisme, ce sont les portraits horribles ou touchants, mais toujours poignants, d'illettrés alcooliques, honteux, souffrants, vivant drame sur drame à cause de leurs difficultés à lire et écrire, mettant en danger leurs enfants, mettant en danger leur couple, ne pouvant plus se lier d'amitié avec personne, etc. Portraits qui, à trop vouloir plaindre et émouvoir, finissent par enfermer et stigmatiser. Je ne reviendrai pas donc sur ces différents points, afin de me concentrer essentiellement sur les raisons et les effets d'une promotion des définitions ou des conceptions culturelles du monde social et de ses problèmes au cours des 20 dernières années. C'est ce tournant culturel que je voudrais analyser. L'invention du terme illettrisme est le fait, je l'ai dit en commençant, du mouvement ATD Quart-Monde, créé en 1960 à peu près par l'abbé Joseph Wrzesinski et dont la présidente demeurera jusqu'en 1998, la nièce du général de Gaulle, Geneviève de Gaulle-Antonioz. Ce mouvement est issu de l'expérience de l'abbé Joseph Wrzesinski à partir de 1956 dans les camps de sans-logis de Noisy-le-Grand. Toutes les personnes qui vont constituer dans le langage d'ATD Quart-Monde les alliés du mouvement, hauts fonctionnaires, diplomates, ingénieurs, enseignants, travailleurs sociaux, étudiants, lui permettent bien sûr d'accéder à l'honorabilité publique et à lui permettre d'approcher divers responsables politiques, administratifs, médiatiques. C'est dit clairement par Joseph Wrzesinski dans ses écrits. Mais ces personnes, ces alliés, importent aussi et surtout dans l'association leur propriété sociale et culturelle. En effet, les alliés apportent leur haute culture scolaire et l'on ne peut pas être surpris par le fait que ATD Quart-Monde n'ait cessé depuis sa création de lancer des mouvements, des institutions ou des clubs culturels de toutes sortes. ATD monte des pivots culturels, des universités populaires, des clubs de savoir. À partir de la fin des années 70, des comités lire et écrire sont de même mis en place. Parfois, l'action revêt des formes plus traditionnelles, mise en place de classes primaires spéciales, de clubs de jeunes, de centres culturels, etc. Les alliés sont peut-être, comme l'écrit Joseph Wrzesinski, sans idées préconçues, mais ils confèrent tous une orientation culturelle et pédagogique au mouvement. Le 17 novembre 1977, grande journée de réunion à Paris de milliers de délégués du mouvement ATD Quart-Monde, va être constituée comme un événement quasi mythique par le mouvement lui-même. C'est en cette occasion que sera lancé ce qui va s'appeler le défi, et qui est le suivant, que dans 10 ans, il n'y ait plus un seul illettré dans nos cités, que tous aient un métier en main, que celui qui sait apprenne à celui qui ne sait pas. C'est pour ATD Quart-Monde le début d'un infléchissement significatif de son discours, qui est d'ailleurs moins une inflexion qu'une mise en exergue, à un moment donné, dans le temps, d'un thème présent depuis toujours, à côté d'autres, à savoir ce qu'elle va appeler d'abord la croisade contre l'ignorance, puis la lutte contre l'illettrisme. Les conditions de ce tournant culturel sont inévitablement liées, d'une part, aux propriétés sociales et aux catégories de perception des personnes orientant concrètement les activités du mouvement, et d'autre part, aux propriétés historiques des différentes activités elles-mêmes. Je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, les membres actifs du mouvement sont tous porteurs de valeurs et de dispositions scolaires qui ne pouvaient manquer, comme je l'ai dit, de produire des effets dans son orientation pratique. Lorsqu'il s'agit de s'occuper des enfants issus des familles des camps, on pense bien sûr à développer pour eux des activités culturelles, et plus particulièrement des activités autour du livre. Par exemple, un numéro de la revue Igloo, intitulé « La culture en milieu sous-prolétarien » et daté de mai-août 1970, présente les activités proposées aux enfants. Les enfants fréquentant le pivot culturel de Noisy-le-Grand sont évalués par les militants du mouvement et l'on constate, je cite, des lacunes scolaires notables et des aptitudes culturelles limitées. Le texte de conclusion indique que, je cite encore une fois, leur faible niveau de lecture paraît être au centre de leurs difficultés scolaires et culturelles. On voit donc de manière assez nette qu'avec la mise en place des pivots culturels comportant des activités physiques, un atelier de peinture et une bibliothèque, l'action du pivot étant explicitement centrée sur le livre, ATD se dote de dispositifs spécifiquement culturels qui vont nécessairement conduire progressivement à une définition culturelle du manque, des lacunes dans les populations pauvres. Mais si c'est la lecture, et ça c'est le deuxième point, qui va s'avérer la pratique la plus discriminante, c'est parce que parmi l'ensemble des activités pratiquées, danse, peinture, lecture, il s'agit non seulement de celles que l'on a décidé de placer au centre, je rappelle la formule, le livre est le centre du pivot culturel, mais il s'agit aussi de celle qui est la plus codifiée, celle qui, attachée à 3 siècles d'histoire scolaire, produit plus spontanément des différences visibles et objectivables entre les pratiquants. On parle de faible niveau de départ, d'insuffisante connaissance des mécanismes de lecture, etc. Très concrètement, les militants disposent de beaucoup moins de grilles d'évaluation et de hiérarchisation des comportements pour ce qui est des activités physiques et artistiques, qui sont justement plus souvent pensées dans la logique d'un épanouissement de l'enfant que dans celle d'une transmission des connaissances. On parle de s'exprimer par la peinture, de l'intérêt des peintures du point de vue psychologique, etc. Ainsi, à la différence de la lecture, l'évaluation des activités de peinture conclut, je cite, « que les enfants sous-prolétariens ne semblent pas avoir notablement des attitudes différentes des autres enfants ». Le père Joseph Wrzesinski, dans un discours intitulé « Les trois refus du mouvement ATD Quart-Monde », accentue très nettement la dimension culturelle de la pauvreté, en faisant du manque de savoir et de culture l'origine et la cause de la pauvreté économique. Je cite Joseph Wrzesinski, « Si vous demeurez dans cette misère, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de vous en sortir, c'est que vous n'avez pas reçu l'instruction qui vous aurait permis d'apprendre un métier, de vous forger des amitiés ou des solidarités, de vous exprimer, de comprendre la marche d'un monde qui vous entoure et qui est le vôtre. » Le quart-monde devient, dans certains textes, une population définie essentiellement culturellement par son ignorance, le terme d'ignorance étant, dans un premier temps, employé. Le tournant culturel accompli par le mouvement ATD Quart-Monde implique un changement dans la manière de parler de la pauvreté. On sait qu'une des spécificités de la conception du monde social du mouvement est l'insistance sur la grande pauvreté. Considérer les problèmes en partant des plus pauvres, établir un lien entre illettrisme et pauvreté, voilà des thèmes fréquents que l'on trouve sous la plume des membres d'ATD Quart-Monde. Cela étant dit, cette thématique a connu des variations significatives. Entre le début des années 60, où la pauvreté est considérée sous toutes ses dimensions, matérielles, morales, culturelles, spirituelles, et la fin des années 70, où l'illettrisme est devenu le comble de la misère et de la pauvreté, le tournant culturel a modifié donc la perception que le mouvement avait du monde social. Dans sa préface à l'ouvrage de Jean Labens, « La condition sous-prolétarienne » datant de 1965, le père Wrzesinski parle de pauvreté économique, mais précise, je le cite, qu'elle s'accompagne de privations sur tous les plans, culturels, physiologiques, sociaux et spirituels. De même, le numéro de la revue Igloo, mai-août 1969, portant sur la question de l'exclusion dans ses formes les plus graves, développe une série de thèmes, aucun n'apparaissant véritablement prédominant. Sous-alimentation, difficultés d'enseignement, problèmes de logement, de revenus économiques, etc. Puis, progressivement, à partir de la fin des années 70, l'illettré devient le symbole par excellence de la misère. L'illettrisme, le comble de la pauvreté, la pire des injustices, voire la cause des exclusions, notamment économiques. Par exemple, Claude Ferrand écrit que le père Joseph savait que la plus grande souffrance des très pauvres est de rester dans un état d'ignorance qui les condamne à l'inutilité et à l'insignifiance. Nous sommes passés donc du manque de culture comme l'une des souffrances parmi d'autres, à la plus grande souffrance qui puisse exister. Mais en lisant les discours sur la pauvreté ou sur la misère produits par A.T. Descartes-Monde, avant que la question de l'illettrisme ne se détache du lot et ne s'autonomise, et on verra, ne s'autonomise hors d'A.T. Descartes-Monde, on aperçoit à quel point les thématiques et la rhétorique se sont déplacées du pauvre vers l'illettré, sans se transformer. Une lecture rétrospective permet de réaliser à quel point ce qui a été dit du pauvre va progressivement s'appliquer, presque mot pour mot, à celui qu'on appellera d'abord l'ignorant ou l'inculte, puis l'illettré. En lisant la conférence intitulée « Échec à la misère » prononcée à la Sorbonne par l'abbé Joseph Wrzesinski le 1er juin 1983, on se rend bien compte du fait que le père Wrzesinski a transféré une argumentation qui portait initialement sur la misère pour l'appliquer à l'illettrisme. La misère, écrit-il, c'est l'homme ne pouvant rien maîtriser dans son corps, dans sa pensée, ni dans sa vie. Appliqué à l'illettrisme, qui devient un équivalent de misère ou de comble de la misère, la formule est de toute évidence plus contestable. Et c'est pourtant ce genre de propos, l'impuissance à maîtriser son destin, à organiser sa pensée, à maîtriser son environnement, qui perdure depuis, jusque sous la plume des experts médiatiques de la question. En 1983, tout le travail social et symbolique d'A.T. Descartes-Monde commence à se faire sentir. Une commission est chargée par le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, de réfléchir sur le problème de l'illettrisme et aboutira en 1984, tout d'abord à la publication d'un rapport officiel au Premier ministre des illettrés en France, puis à la création du GPLI, le groupe permanent de lutte contre l'illettrisme. La passation, transformation du problème de l'illettrisme, des militants à qui l'on demande l'engagement total et durable, à l'État, est un passage qu'on pourrait décrire avec un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, est un passage qu'on pourrait décrire donc comme celui qui mène des prophètes aux bureaucrates, des missionnaires aux fonctionnaires du temple. Les fonctionnaires du temple, évidemment, disposent de beaucoup plus de moyens financiers permettant le financement d'actions, de recherches, de moyens d'information auprès de grands organismes de recherche, tels que l'INSEE ou l'INED, de réseaux institutionnels sur lesquels elle peut appuyer son action. L'illettrisme devient alors une affaire d'État. Et l'on passe progressivement de l'époque où le missionnaire prêchait parfois dans le désert, bon, entre 1977-78, où A.T. Descartes-Monde commence à parler d'illettrisme, et 1983, il a fallu des années hors État, hors soutien public. Donc ça a été un long cheminement pour ces militants. Donc cet illettrisme devient une affaire d'État, et l'État s'appropriant d'une certaine façon le problème, s'y intéressant et le prenant à sa charge, elle arrive au moment où elle prêche déjà des semi-convertis, puisqu'il y a déjà eu un début de campagne médiatique sur la question de l'illettrisme, notamment en 1983. Le rapport au Premier ministre des illettrés en France, donc, construit la catégorie illettrisme en autonomisant un problème spécifique, tout en le raccrochant à d'autres problèmes sociaux pour s'appuyer sur des acteurs, formateurs, travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs, susceptibles d'être mobilisés pour lutter contre ce qu'on va appeler un fléau. En effet, l'histoire de la définition de leurs fonctions les amène à s'occuper d'autres problèmes sociaux. Il y a ainsi une tension visible dans ce texte entre la désignation des catégories concernées par l'illettrisme, jeunes en difficulté, milieu populaire, détenus, milieu sous-prolétaire, fraction inférieure de la classe ouvrière, bas niveau de qualification, etc., et l'affirmation de la spécificité du problème, qui ne concerne donc pas un ensemble d'individus qui pourraient tout aussi bien être désignés par un autre substantif. Le problème qui se pose à ceux qui veulent constituer un problème social, c'est que, par exemple, dans le cas de l'illettrisme, si tous les illettrés étaient pauvres et qu'il n'y avait que des pauvres illettrés, alors une lutte contre la pauvreté suffirait à éradiquer le problème de l'illettrisme. Donc l'effort de ceux qui parlent de l'illettrisme consiste à autonomiser le problème pour ne pas le réduire à des populations autrement désignables. Et puis, on tisse des liens entre ce problème autonomisé et d'autres problèmes qui sont déjà constitués. On va décliner le problème. Illettrisme et pauvreté, illettrisme et précarité, illettrisme et insertion, et RMI, et exclusion, jeunesse en difficulté, échec scolaire, illettrisme et santé, illettrisme et entreprise, et prison, et armée, et administration publique, et bibliothèque, et culture, et enfance ou petite enfance, et milieu rural. Dans cette simple liste, je vous ai à peu près cité la grande majorité des journées d'études, des colloques, des publications qui ont eu lieu au cours des 15 dernières années. On a comme ça décliné le thème en le raccrochant à d'autres problèmes. Le problème social illettrisme s'est développé, en fait, parallèlement à celui d'échec scolaire. Il en est en quelque sorte le demi-frère, puisqu'il concerne en principe, les populations sorties du système scolaire, mais que l'on continue à évaluer à l'aune de compétences scolaires. Compétences scolaires qui se sont très largement secondarisées, puisqu'on est passé d'une définition du lire-écrire du type lecture-déchiffrage à lecture-compréhension, et de type écriture-copie à écriture-rédaction. Le problème d'illettrisme partage pour partie les mêmes grandes conditions objectives, notamment institutionnelles, d'apparition, que celui donc d'échec scolaire, et tend aujourd'hui à se substituer à lui, puisque l'on qualifie d'illettré, au mépris évidemment d'une grande partie des définitions en circulation, des enfants encore scolarisés. Le cabinet de Ségolène Royal ayant même parlé en 1999 du rôle de l'école maternelle dans la prévention de l'illettrisme. L'illettrisme ne peut apparaître que lorsque des adultes sont, d'une manière comme d'une autre, par stage de reconversion, par stage d'insertion sociale, de formation, à nouveau scolarisés. C'est la scolarisation des adultes, pour des raisons de crise de l'emploi, qui amène à une vision scolaire de la société à grande ampleur. Cette vision existait, a toujours existé. Il y a toujours eu des petites lettres dans les journaux de professeurs s'indignant du nombre de fautes d'orthographe, des journalistes, des commerçants, etc. Mais pour avoir une vision de grande ampleur, il a fallu que l'on soit dans cette situation qu'un grand nombre d'adultes, au chômage essentiellement, ou ayant du mal à trouver un emploi, se retrouvent sur les bancs de la formation. Cette scolarisation effective, cette remise économiquement forcée sur les bancs de la formation, s'accompagne d'une scolarisation plus symbolique lorsque la France devient une grande salle de classe avec la dictée de Bernard Pivot, par exemple, ou bien lorsque la population française est jugée et évaluée dans des discours sociaux ou des enquêtes statistiques, de l'INSEE notamment, à partir de critères scolaires propres, soit à l'école primaire, au secondaire ou à l'université. La force sociale, désormais, dès lors que le problème est pris en charge par l'État, attaché à la notion d'illettrisme, est à la mesure de sa capacité à incorporer ou à recycler d'anciennes questions, d'anciennes problématiques, d'anciens problèmes qui vivaient jusque-là parallèlement sans trouver le lieu de leur rassemblement. Par exemple, lorsqu'un auteur, institutrice, puis enseignante en institut médico-éducatif, désigne en 1989, dans un ouvrage, comme illettré des enfants et adolescents jusque-là davantage qualifiés d'inadaptés, d'anormaux ou de débiles légers, elle contribue à la requalification de ces enfants et adolescents scolarisés dans l'enseignement spécialisé à partir du critère du lire-écrire. Les enfants, eux, n'ont ontologiquement, on pourrait dire, pas changé. Et pourtant, ils ne sont socialement plus tout à fait les mêmes, puisque les modes de désignation qu'on leur applique et du même coup les manières de penser les solutions à leurs problèmes sont modifiées. En dépit des tentatives de fixation du sens du mot par des instances officielles, le flou sémantique réel du terme, individuellement souvent regretté, mais pourtant collectivement entretenu et bénéfique, permet la mise en cohérence d'un ensemble hétéroclite. Parvenir à ce que soient assemblés sous la même bannière la lutte contre l'illettrisme des professionnels extrêmement variés est le tour de force qu'ont réussi à produire collectivement, mais sans aucune concertation, les producteurs professionnels de discours sur l'illettrisme. Se trouvent ainsi réunis sous la même bannière les pédagogues luttant contre l'échec scolaire, les différents acteurs du soutien scolaire, les psychologues et orthophonistes s'interrogeant sur la dyslexie et la dysorthographie, les formateurs chargés de l'alphabétisation des populations immigrées, les formateurs d'entreprises cherchant à former des bas niveaux de qualification, les travailleurs sociaux responsables des publics en difficulté d'insertion, les responsables de missions locales d'insertion, les spécialistes de la réinsertion des détenus, des jeunes délinquants, etc., les associations caritatives travaillant auprès de populations pauvres, les bibliothécaires, les enseignants, les responsables culturels luttant pour diminuer le nombre de faibles lecteurs ou de mauvais lecteurs, comme on les désigne parfois, ceux qui, rapprochant la notion d'illettrisme de celle d'ignorance, n'hésitent pas à parler d'illettrisme culturel, ceux, artistes, journalistes, culturels, enseignants, luttent pour la défense de la langue française et notamment de son orthographe, et ceux enfin, mais on en trouverait encore d'autres, j'imagine, philosophes, écrivains, essayistes, déplorant la fin de la civilisation écrite et la défaite de la pensée. Lieu commun discursif de nombreux problèmes réels, mais aussi de nombreux fantasmes sociaux qui n'ont parfois que peu de liens entre eux, l'illettrisme est devenu un mythe social collectivement entretenu. Une fois constitué sociopolitiquement, l'illettrisme devient une catégorie dominante parmi d'autres, ce n'est pas évidemment la seule, de perception du monde social, et malgré son flou, impose tout de même une manière de voir le monde, et notamment sous un angle essentiellement économique, plutôt qu'économique ou politique, par exemple. On a ainsi clairement affaire, avec la catégorie d'illettrisme, à une catégorie attrape-tout, extensible ou redéfinissable à loisir, et permettant, du même coup, à des acteurs et des actions très différentes de revendiquer le label « lutte contre l'illettrisme ». Le flou sémantique n'est donc pas un défaut ou le signe d'un dysfonctionnement social, mais la condition même de la rentabilité et de l'utilité sociale de la notion. Les discours sur l'illettrisme livrent aussi de multiples manifestations de ce que l'on peut appeler la vision ethnocentrique des lettrés ou encore l'ethnocentrisme culturel. L'absolutisation ou la sublimation, au sens de monter, de porter au sublime, des traits de sa propre culture, conduit classiquement à découper tous les beaux costumes, pleine humanité, véritable citoyenneté, bonheur authentique, vraie intelligence, vraie vie, à sa taille, et à juger de la petitesse ou de la grandeur de tout le reste du genre humain, à partir de ses costumes sur mesure. Les propos sur l'excellence, sur le plein accomplissement des potentialités humaines, sur l'existence accomplie, sur l'essence humaine en sa forme la plus achevée, des choses qui se trouvent dans les discours sur l'illettrisme. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Tous ces propos sont des manières de boucler sur soi les limites de l'existence considérée comme étant digne d'être vécu et de mettre à distance, discrètement ou parfois même rageusement, ceux qui sont les plus éloignés de la définition de soi. L'ethnocentrisme des groupes humains, c'est un grand classique de l'anthropologie. André Leroy-Gourhan disait que ils amènent à assimiler leur ethnie à une sorte de moi idéal réunissant les qualités du bien et du beau. Les groupes sont ethnocentriques par définition. Ils regardent leur propre culture, désignent les limites de l'humanité à partir des limites de leur territoire, de leur communauté, et renvoient les autres à du non-humain. Lévi-Strauss disait que certaines tribus s'appelaient les complets. Nous sommes les complets. Donc les autres sont dans l'incomplétude, évidemment. Ou parfois, le nom « homme » est réservé à ceux qui appartiennent au groupe. Alors, que le groupe soit tribu, village, nation, classe ou fraction de classe, il peut décider de contenir l'humanité ou l'excellence humaine dans les limites de son territoire en renvoyant le hors-limite à du non-humain ou à du moins qu'humain. Au sein d'un même groupe social, les catégories d'individus stigmatisés sont victimes du même type de traitement. Il va de soi, écrivait le sociologue nord-américain Erwin Goffman, que par définition, nous pensons qu'une personne ayant un stigmate n'est pas tout à fait humaine. C'est ainsi qu'un linguiste peut écrire en 1998, avec toute la bonne conscience possible du lettré préoccupé par l'illettrisme, que les enfants en difficulté avec la langue, orale ou écrite, seront moins humains que les autres. Plus vulnérables aux discours sectaires et intégristes, plus facilement séduits par des explications simplistes et définitives, plus portés à la violence immédiate, ils seront ennemis naturels de l'étranger et de l'inconnu. Qualifiés par le même auteur de « bons en rien », moins humains que les autres, les illettrés apparaissent comme de véritables barbares. C'est le même ethnocentrisme lettré qui se manifeste lorsqu'on lit chez un autre auteur, essayiste, que, je cite, « le livre est l'autre nom du procès d'humanisation de l'homme », qu'on ne peut donc qu'éprouver le sentiment d'une douleur devant une répartition des choses et de la société qui consiste à savoir priver le plus grand nombre du puissant secours de la culture, de la lecture et des livres par où l'on devient homme, ou encore que le manque de livres ne fait pas mourir le corps, il ne fait pas mourir l'âme ou l'esprit, il empêche seulement l'homme d'être, de devenir homme. Alors, inutile de préciser ici ce que cette définition de la pleine humanité par le livre, et plus précisément encore dans le cas de ce dernier auteur par la littérature, présuppose d'infra-humanité, c'est-à-dire d'exclusion brutale d'une majorité d'hommes et de femmes du règne de l'humain. Alors le sentiment qui traverse celui qui travaille sur les discours publics concernant l'illettrisme est finalement assez curieux. Il finit par se demander pourquoi tant de personnes parlent si bizarrement du monde social et d'où leur viennent ces étranges habitudes discursives qu'ils ont contractées. En effet, et y regarder de près, nombre de discours sur l'illettrisme parlent de tout autre chose que de la question censée être traitée. Et c'est bien pour ça que je parle de tout autre chose que du sujet qui est désigné par le terme illettrisme, étudiant ces discours. De quoi parlent ces discours, en fait? Ils nous donnent à voir une cartographie mythique des places symboliques qu'il convient d'envier pour atteindre sa propre vérité, le bonheur, l'épanouissement personnel, l'autonomie, la vraie citoyenneté active, le pouvoir sur soi et sur la vie, la maîtrise de soi et de son environnement, la dignité humaine et, évidemment, valeur suprême, l'humanité. L'accès à l'écrit est censé nous apporter tout cela, ce qui est fantastique, hein, et si nous étions encore collectivement gouvernés par des principes religieux, nul doute que les discours nous promettraient le paradis. Les discours parlent en creux, évidemment, de la place des illettrés, qu'il faut à tout prix éviter, pour ne pas tomber dans le no man's land, informe de la sous-citoyenneté, de l'absence de la maîtrise du sens de sa vie, de la non-humanité, de l'indignité, de l'incapacité à être ou à vivre, etc. Il est d'ailleurs tout à fait révélateur que si les démunis sont facilement désignables, les illettrés, les autres, non illettrés, se définissent essentiellement par ce qu'ils ne sont pas, par ce à quoi, heureusement, ils échappent. En effet, on peut difficilement opposer lettré à illettré, étant donné la connotation savante du premier terme. La catégorie est donc parfaite pour rassurer tous ceux qui se sentent non illettrés, mais qui ne pourraient toutefois pas s'auto-définir comme des lettrés. Et elle rassure, comme on l'a vu, au-delà du raisonnable. Les non-illettrés accèdent à l'épanouissement de leur personnalité individuelle, au bonheur, à l'épanouissement personnel, à la participation entière à la vie économique, politique, sociale de leur pays, etc. Il y a qui pourrait raisonnablement le contester, de la surenchère et de l'exagération dans ces descriptions de la vie des uns et de la presque non-vie des autres. Mais cela n'a rien d'étonnant si l'on considère que ces descriptions sont celles d'une cartographie symbolique et non d'une situation réelle. Il s'agit là d'une petite mythologie de dominants plutôt lettrés, sur le thème de la vie qui mérite d'être vécue, de l'existence accomplie. On pourrait ici paraphraser ce qu'écrivait le sociologue allemand Max Weber à propos de l'Église pour définir le travail social qu'effectuent les professionnels du discours public lorsqu'ils décrivent aujourd'hui, à propos de l'illettrisme ou à propos d'ailleurs d'autres thèmes, dignité et indignité, bonheur et malheur, raison de vivre et absence de raison de vivre. On dirait alors, je paraphrase Max Weber, que les professionnels de discours sur le monde social sont des agents qui revendiquent, avec plus ou moins de succès, le monopole de la contrainte psychique légitime sur les citoyens, en tant qu'ils dispensent ou refusent les biens de salut terrestre au sens de raison d'exister. On donne des raisons d'exister à certains et on dit à d'autres qu'ils n'ont aucune raison d'exister, et en tout cas dignement. Que conclure de tout cela ? Progressivement, du début des années 60 à la fin des années 90, c'est donc non seulement des problèmes publics, politiques, la démocratie, la citoyenneté, l'accès à l'emploi, mais aussi des questions privées ou éthiques, telles que l'épanouissement individuel, l'accomplissement personnel, le bonheur, la dignité ou l'humanité, qui vont être pris dans le grand tournant culturel et être culturellement redéfinis. La culture légitime, et tout particulièrement la culture scolaire générale, est presque devenue la mesure de toute chose, y compris de la vertu. Être un homme complet, épanoui, heureux, c'est être un homme cultivé. On a donc fini par penser qu'un homme de bien, qui fait le bien, de même qu'un homme qui vit bien, heureux de vivre, était nécessairement un homme de bien culturel, un homme qui est culturellement doté. Nombreux sont aujourd'hui les intellectuels français à établir un lien de causalité entre absence de culture et violence. Par exemple, après avoir affirmé que l'amour de la langue est de moins en moins répandu en France, un philosophe français déclarait en 1999, je le cite, « Je crois qu'il y a un rapport entre cette déperdition de la langue et la violence dans les écoles. » Parce que moins vous avez de langues à votre disposition, plus vous êtes tenté par les choix simplistes, donc par la brutalité. Et le retour de la violence physique dans notre civilisation, ce qui est la grande surprise de la fin du XXe siècle, elle doit se penser dans le cadre de cette déperdition générale de la langue. C'est aussi un linguiste français qui soutient depuis plusieurs années que ce qu'il appelle la langue illettrée, de même que celle utilisée dans les banlieues par les jeunes, interdirait, je cite, « toute tentation de relation pacifique, tolérante et maîtrisée avec un monde devenu hors de portée des mots, indifférent aux verbes, car elle n'aurait pas le pouvoir de créer un temps de sereine négociation linguistique propre à éviter le passage à l'acte et l'affrontement physique. » Ces intellectuels pensent même parfois que c'est le manque de culture qui entraîne vers tous les extrémismes, vers l'intolérance, vers le racisme, vers la xénophobie. Mais d'où peut bien venir cette certitude, sociologiquement et historiquement infondée, selon laquelle la culture apporterait nécessairement tolérance, largeur d'esprit et capacité de compréhension, et impliquerait forcément une vision et une pratique pacifiée du monde social. Cette certitude que la compréhension du monde assagit inévitablement les êtres et les rend obligatoirement meilleurs, plus pacifiques, plus tolérants, bref, que la culture est aussi morale. Si l'on plaçait durablement, et je précise par simple variation imaginaire, cela va de soi, ces intellectuels qui sont hautement cultivés, et la plupart du temps hautement scolarisés, dans des conditions durables de désespérance économique et sociale que connaissent justement ces jeunes en échec scolaire et au chômage, vivant dans des familles atteintes par les effets dévastateurs des mutations du système économique, peut-on penser qu'ils garderaient indéfiniment cette distance cultivée et raisonnable au monde social, loin de toute envie de violence et d'agressivité? C'est une question. En fait, en dehors des effets socialisateurs, secondaires mais néanmoins puissants, de l'action pédagogique en matière de disciplinarisation des corps, un gros volume de capital culturel ou scolaire, en soi, ne protège en rien de la barbarie ou de la violence et n'implique nullement l'acquisition de dispositions morales telles que la loyauté, le souci d'autrui, l'écoute, la gentillesse, le rapport pacifié aux autres, le fair-play, etc., etc. À force de rabattre l'éthique sur le culturel, on a fini par oublier que ces deux dimensions n'étaient pas nécessairement confondues. La haute culture scolaire et extrascolaire des hauts dirigeants des partis d'extrême droite, médecins, polytechniciens, universitaires, avocats, n'est jamais parvenue à les protéger de la simplification politique, de l'intolérance la plus élémentaire et parfois même de la violence physique. La bassesse morale et politique est compatible avec une haute culture scolaire. Donc, je termine bientôt, réservé. Immoralité donc et fort volume de capital culturel peuvent malheureusement faire bon ménage, et il ne faudrait pas juger trop vite la moralité ou la vertu à partir du degré de connaissance scolaire ou de compétences culturelles, ou sur la base du volume des actes culturels, en laissant du même coup planer dangereusement un doute sur la vertu de ceux, classes populaires rurales et urbaines, essentiellement, qui sont les plus éloignés des formes légitimes de culture. La fantastique promotion d'un problème tel que celui de l'illettrisme apparaît ainsi comme un symptôme, parmi d'autres, de cette nouvelle centralité de la culture, essentiellement littéraire ou livresque, dans la perception du monde social et de ses problèmes. J'ai essayé tout au long de cette conférence de rappeler que de l'illettrisme, facteur parmi d'autres d'exclusion ou problème parmi d'autres, nous sommes passés historiquement à l'illettrisme, source, cause, symbole ou forme suprême de l'exclusion. Cette inflexion du discours, qui a pu s'observer à l'origine, à l'intérieur même de l'inventeur de la notion, va diffuser très largement vers l'extérieur et sera accompagnée et magnifiée par des intellectuels, essayistes, philosophes, linguistes et professionnels de la culture qui font du manque de lecture ou des difficultés d'écriture le comble de la misère humaine. La question que je me pose à la fin de ce cheminement analytique sur le continent des discours sur l'illettrisme est de savoir ce que nous avons collectivement à gagner, mais surtout, vous l'aurez compris, à perdre, en parlant du monde social de cette manière. Je vous remercie.
Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre analphabétisme et illettrisme, s'il vous plaît ? Merci.
Je réponds question par question.
Oui.
Alors, la grosse difficulté, c'est que je suis dans la capacité de répondre à la question. Je peux vous dire ce qui se dit le plus généralement sur la question, mais qui est assez flou. Pour répondre à la question de la manière la plus simple possible, je dirais que les premières définitions de l'illettrisme ont été des définitions de l'analphabétisme, et notamment soit de l'analphabétisme définition de l'UNESCO, soit de l'analphabétisme dit fonctionnel, mais la différence n'était pas très grande. Ça a été une première étape. Donc on a utilisé des définitions qui portaient sur des populations du tiers-monde pour parler de populations qui étaient sur le territoire français. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu longtemps utiliser ces définitions parce que c'était quand même assez gênant de considérer qu'il y avait, après 3 siècles d'histoire scolaire, des Français qui seraient analphabètes. Donc on a inventé un terme, celui d'illettré, enfin on l'a inventé, le terme d'illettrisme, le terme illettré existait depuis très très longtemps, et on a progressivement trouvé des définitions les plus classiques, mais qui sont à chaque fois remises en question. Donc je peux simplement vous dire qu'une des définitions les plus communément employées, c'est de dire qu'un illettré, c'est quelqu'un qui est sorti du système scolaire, déjà, première chose, et que, après de nombreuses années de travail, sans pratique dans sa vie quotidienne domestique aussi, il perd progressivement un certain nombre d'habiletés en matière de lecture et d'écriture. Voilà ce que je peux dire. Ceci dit, dès lors qu'on parle d'illettré pour des populations encore scolarisées, vous voyez qu'on remet en question les définitions qui sont utilisées au départ. Donc, le flou, je n'en suis pas le responsable, et je crois que le travail, en tout cas celui que j'ai mené, n'a pas consisté à essayer de dire « je vais vous dire quelle est la bonne définition », même si je pense qu'il en faudrait une, et qu'il faudrait que certaines définitions, enfin une, plusieurs sans doute, plusieurs définitions pour désigner des problèmes très différents dans le rapport à l'écrit de populations qui n'ont pas les mêmes trajets scolaires, sociaux, d'immigration ou pas, etc. Il faudrait plusieurs définitions pour arriver à penser des politiques de formation beaucoup plus précises. Donc on est dans le flou le plus large, et ce que je peux répondre, c'est ça. C'est que pendant longtemps et encore aujourd'hui, les deux termes sont très très proches, analphabétisme et illettrisme. Une des particularités, c'est que l'illettré est l'analphabète français. C'est la plus grande caractéristique du terme.
Une question là, monsieur. Levez-vous, s'il vous plaît.
Oui, il me semble que vous n'avez peut-être pas parlé de la différence qu'il existe entre l'illettré fatal, en quelque sorte, qui résultant d'une exclusion initiale, de l'illettré par laxisme personnel qui, ne fait pas l'effort suffisant pour développer justement son lettrisme. On dit que le français moyen passe 3h50 devant la télévision actuellement. Ce n'est pas justement, comme vous le disiez, une perte potentielle de certaines facilités, certaines capacités. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une forme d'illettrisme par abandon, par paresse intellectuelle, en quelque sorte?
Alors, là aussi, difficile de répondre à la question. Je pense que les travaux qui existent aujourd'hui sur les liens négatifs, enfin, on essaye de voir l'effet négatif de la télévision, par exemple, sur les pratiques de lecture, les enquêtes montrent que ça n'est pas aussi simple que ça. Que notamment les jeunes générations lisent et regardent la télévision. Donc on ne peut pas imputer à une seule cause les effets ce qu'on appelle l'illettrisme. Mais en tout cas, ce que le sociologue peut dire sur ces questions-là, c'est qu'il n'y a jamais de faute morale dans tout ça. C'est-à-dire que vous avez parlé de gens qui ne feraient pas l'effort. Dès lors que vous essayez de construire les conditions dans lesquelles les gens sont amenés à échouer scolairement, par exemple, vous voyez que ça dépend très très peu d'eux. Ils renouent avec une histoire familiale dans le rapport à l'école qui ne s'est pas très bien passé. Ils se retrouvent dans des situations sociales, parfois de désespérance économique, telles que l'école est un souci, est un des derniers soucis, parce que à côté de ça, la cellule familiale est complètement déstructurée par plus aucun avenir économique, etc. Donc, c'est très difficile de penser les problèmes en termes de responsabilité morale et individuelle. Voilà.
Le monsieur en haut, levez-vous.
S'il vous plaît, moi je veux vous ramener un tout petit peu peut-être à la question de la première question. Même si vous ne voulez pas vraiment nous dire la différence entre analphabète et illettrisme, c'est quand même l'analphabète, c'est quand même celui qui n'est pas rentré dans le système. Mais ma question, c'est si je sais parler le swahili ou le yiddish ou sans savoir un seul mot en français, suis-je analphabète ou non? Deuxième question, professeur. Dans un pays comme les États-Unis, qui est un pays à immigration à 100%, on peut comprendre qu'il y ait des analphabètes où il est un chiffre très élevé, même si vous n'avez pas voulu donner les chiffres. Pour un vieux pays comme la France, de souche, depuis Vite Philippe, même avant, les chiffres vont quand même entre 8 et 15% de la population. Comment on peut expliquer ça, vous qui avez peut-être beaucoup plus réfléchi sur la question? Où est la faute là-dedans? Est-ce que c'est la faute du système? Est-ce que la faute de M. Abel, l'artiste personnel, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, où est la faute pour cette portion de Français quand même, ou de population française, entre 12 et 15% qui ont vraiment quand même ce que vous appelez le comble de la pauvreté?
Déjà, il faudrait être sûr qu'ils sont 12 à 15%. Enfin, bon, ça, c'est des débats. Je ne veux pas rentrer dans les mesures de l'illettrisme. C'est un problème extrêmement complexe. Et ce n'est pas parce qu'il y a, d'ailleurs, un problème de mesure qu'on peut nier le fait qu'il y ait des gens en difficulté avec l'écrit. Hein. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas où mettre la barre entre les riches et les pauvres que, donc, il n'y a pas de riches et il n'y a pas de pauvres. Entendons-nous bien. Mais déjà, les critères qui ont été utilisés dans des enquêtes extrêmement différentes pour mesurer l'illettrisme des Français sont très très différents. Bon, on pourrait prendre certaines enquêtes qui retiennent y compris les difficultés à parler dans certaines situations publiques. Vous avez évoqué d'ailleurs dans votre question, dans votre première question, la question de l'oral. Et pourtant, a priori, l'analphabétisme ou l'illettrisme n'a pas grand-chose au départ à voir avec la question de l'oral ou la maîtrise de l'oral. On n'en a jamais fini avec ces choses, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on se met à déplacer de l'écrit à l'oral, qu'est-ce que c'est que le bien parler? Qu'est-ce que c'est perdre ses moyens dans une situation? Qui perd ses moyens? Il y a des gens qui perdent leurs moyens dans une situation, mais pas dans d'autres. C'est très très compliqué. Bon. Ceci dit, là aussi vous posez les questions en termes de cause. Qui est responsable? Qu'est-ce qui fait que dans un pays comme la France, aussi évolué, scolarisé, etc., il reste encore 10 à 15%, 10 à 12% de gens en difficulté avec l'écrit? Mais déjà, il faut se rendre compte que les critères ont énormément changé. C'est-à-dire qu'on ne mesure plus les compétences des gens avec les mêmes exigences en termes de lecture et d'écriture. Bon, quand j'ai dit rapidement dans la conférence qu'on était passé de critères primaires à des critères secondaires, de l'école primaire à l'école, le lycée notamment, c'est très important. On est passé aujourd'hui, on ne considérera pas que quelqu'un maîtrise réellement l'écrit s'il ne sait que recopier un texte sans faute, copier sans trop de faute sous dictée, même si Bernard Pivot fait tout pour que nous soyons au top de ce côté-là. Et ça ne suffira pas non plus pour considérer que quelqu'un est rentré dans l'écrit, de l'avoir fait lire un texte, et au sens d'oraliser, et d'oraliser en mettant le ton. Il s'arrête au point, il marque un temps aux virgules, etc. Or, pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, nous avons été à ce régime-là. Nous avons considéré avoir alphabétisé une population à travers des critères qui étaient essentiellement des critères de l'école primaire. Dès lors que vous changez les critères, vous produisez des illettrés, forcément. Quel que soit le niveau de la classe, vous avez toujours des têtes de classe et des queues de classe. quel que soit, même si vous avez, vous prenez une classe de polytechniciens, il y en a toujours un premier et un dernier, et le dernier, de toute façon, il sera moins bon que les autres. Donc, il faut voir que les critères ont changé, collectivement, les critères ont changé. Donc, effectivement, on découvre qu'il y a des populations qui ont des difficultés avec l'écrit en termes de savoir comprendre certains textes, mais l'affaire est sans fin. Moi, je vous garantis que dans 50 ans, on peut parler encore d'illettrisme. Parce qu'on aura inventé d'autres pratiques de l'écrit, on aura canonisé à l'école d'autres pratiques, d'autres modes d'évaluation, et on aura mesuré des gens, des élèves qui maîtrisent plus ou moins cela, et donc il y aura de nouveaux illettrés. Vous voyez un peu le problème. Le problème se pose un peu d'une autre manière.
Madame, là, allez-y, levez-vous.
D'une part, je pensais qu'on pourrait rappeler le système de définition du lettré du recensement indien, qui avait affaire à 250 langues et je crois 5 espèces d'écriture, qui est la personne est-elle capable de recevoir une lettre personnelle et d'y répondre ? Bon. D'autre part, la question que je voulais poser est, a-t-on jamais étudié cette forme que j'appellerais l'illettrisme inverse, c'est-à-dire l'incapacité à comprendre un objet matériel et à décortiquer une technique qui est le fait de 99,9% des intellectuels français, ou peut-être seulement 80%, je ne sais pas.
Je vous remercie d'avoir posé la question, parce que si c'était moi qui le disais, immédiatement, c'est jugé démagogique. Je dis souvent à mes étudiants qu'on trouve des titres extrêmement accrocheurs sur l'illettrisme des Français, et on s'émeut publiquement de l'illettrisme des Français, mais on ne trouvera jamais un titre du genre « Mon Dieu, Bernard-Henri Lévy ne sait pas utiliser un moteur, ne sait pas démonter un moteur de mobylette, par exemple ». Bon, évidemment, ça peut être jugé immédiatement comme démagogique, parce qu'on peut se dire, mais tout ne se vaut pas. Et c'est vrai que tout ne se vaut pas. Nous sommes dans un monde social où démonter un moteur de mobylette est moins bien que savoir déchiffrer un texte. Et plus le texte est savant, mieux c'est. Voilà. Ceci dit, effectivement, il y aurait à réfléchir sur... D'autant que l'école parle depuis des années... Il y a des gens qui parlent autour de l'école de la reconnaissance d'une pluralité de formes d'excellence. Je pense qu'il y aurait, sans démagogie, à réfléchir sur les différentes formes d'excellence, puisque j'ai parlé d'excellence humaine, d'accomplissement de soi, etc., d'autres formes que celles qui passent effectivement uniquement par le texte.
Une question là-haut.
Oui. Il y a une... dans certaines universités américaines, je crois que c'est en Californie, mais je ne m'en suis pas très sûr, il y a eu un certain nombre d'expériences pour faire des classes on va appeler ça, langage de la rue, entre guillemets. Hein, ce n'est pas le terme exact qui était employé dans l'article. Classe réservée, enfin... destiné à principalement à la population noire qui était censée ne pas s'intégrer dans le système lettré habituel. Et les enseignants qui créaient ces classes se donnaient comme motif de dire « bon, ben, il faut quand même qu'on leur permette de s'en tirer dans la vie, même si ce n'est pas en maîtrisant le langage que nous maîtrisons ». Si c'est leur, tant pis, mais au moins qu'ils maîtrisent quelque chose. Alors, je voulais savoir si vous aviez connaissance de ces expériences, si vous aviez une opinion dessus.
Alors, je connais vaguement ces expériences, et je ne me rappelle plus effectivement du terme qu'on utilise pour désigner ce vernaculaire noir américain qui a étudié un sociolinguiste américain important qui s'appelle William Labov. Mais ce que je peux dire, c'est que là, on touche à la démagogie, à mon avis. C'est-à-dire que... autant un sociolinguiste comme William Labov, qui a étudié le parler noir dans les ghettos, notamment de New York, a pu montrer que ça n'est pas du tout une langue déstructurée. C'est une vraie langue qui a ses règles ses régularités, et phonologique, et syntaxique, et lexicale. Et donc, il y a un vrai système langagier qui est créé dans des situations culturelles particulières. Et il explique que, évidemment, si on place ces jeunes dans des situations de marché linguistique, comme dirait cette fois Bourdieu, un peu tendues, officielles, ils n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'on détruit systématiquement leur habitude langagière ordinaire. Bon. Alors le problème, c'est, si on se dit, sur la base de constats sociolinguistiques, ils ont effectivement une langue et des régularités grammaticales, lexicales, etc., stylistiques, on risque bien de passer, si on institutionnalise ça, à l'institutionnalisation de différences. C'est-à-dire à considérer, c'est leur culture, donc laissons-les là où ils sont. Et je pense que dans ces débats-là, il y a deux risques. Le risque que j'ai pointé ce soir, c'est le risque du misérabilisme, qui consiste à dire, s'il ne maîtrise pas ma langue, s'il ne lit pas ce que je lis, il n'est pas vraiment humain, il n'est pas véritablement accompli, il n'est pas véritablement dans l'excellence, il ne mérite, enfin, il n'a pas une vie digne d'être vécue. Misérabilisme le plus exacerbé. D'un autre côté, dire, bon, finalement, tout ça, c'est très bon pour eux, on les laisse là-dedans, on tombe dans l'effet inverse. Et parce que il y a un effet négatif, c'est que si on ne leur donne pas un minimum de moyens pour se retrouver dans des situations officielles que j'évoquais et pour pouvoir se débrouiller dans les rapports aux administrations, par exemple, dans les rapports à des situations publiques, à des situations d'écriture, alors on renforce les inégalités de départ. Donc là, je pense qu'on n'est pas obligé, parce qu'on reconnaît une culture, de respecter, entre guillemets, cette culture en disant, finalement, c'est leur culture, elle est belle, laissons-les avec cette belle culture. Vous voyez, c'est les deux, il faut tenir les deux bouts. On n'est pas ni obligé de dire ce sont des non-êtres, et on n'est pas obligé de dire non plus qu'est-ce qu'ils sont merveilleux. Donc ils n'ont plus besoin de nous, ni d'école, ni quoi que ce soit, ou alors l'école va leur donner, va leur redonner ce qu'ils ont déjà.
Encore deux dernières questions. Tout d'abord madame là, et après monsieur.
Oui, bon, vous avez un petit peu répondu à la question que je voulais poser, mais je vais quand même la poser. Y a-t-il un bénéfice, et pour qui, de ce type de discours dont vous nous avez parlé, qui est tenu sur l'illettrisme, autre qu'un pseudo-bénéfice psychologique consistant à définir l'humain à partir de soi? Est-ce qu'il y a une fonction qu'il serait intéressante de connaître de ce type de discours? Que remplit ce type de discours?
Alors, la fonction, une des fonctions centrales, c'est effectivement cette sorte de fonction de réassurance symbolique. Bon, j'allais dire, avec Max Weber, qu'on sait tous qu'on va mourir, ce qui est dramatique. Et on sait tous qu'on n'a aucune raison d'exister. On n'a aucune raison particulière d'exister. On en a mille et aucune. Pourquoi on existe? Bon. Donc, il faut avoir des raisons. Alors, ça donne des raisons. Des micro-raisons, hein, ça ne dure pas longtemps. Mais quand vous lisez un texte et que vous êtes absorbé par un texte qui vous magnifie et qui vous dit... Vous êtes épanoui, vous avez échappé au pire, etc. C'est des petites minutes qui comptent dans la vie. Ah oui. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous avons besoin de raisons d'exister. Ceci dit, ce que je pointe, c'est que on peut se trouver des raisons d'exister dans une démocratie sans nécessairement considérer que le reste des humains, enfin, n'en sont quasiment pas. Bon, donc, il y a cette fonction centrale. Mais alors, il y a un grand nombre de fonctions. J'ai parlé de détournement, c'est-à-dire presque au profit personnel de problèmes publics. Bien sûr que l'illettrisme fait vivre, très concrètement, économiquement. On vend des méthodes de lecture sous le label lutte contre l'illettrisme. On monte des opérations avec ce label-là. On peut, j'allais dire, on peut même faire une carrière d'universitaire. Hein. Moi, j'ai un livre sur la question. Ceci dit, après avoir fait ça, j'arrête. Voilà. Et vu le nombre d'exemplaires vendus, c'est pas ça qui va rapporter énormément. Mais il y a plein de fonctions secondaires de ce type-là qu'il ne faut absolument pas négliger, ça c'est clair.
S'il vous plaît, monsieur. Une dernière question, monsieur, oui.
Bonsoir. Qu'en est-il de la dérive sociologique dans les autres pays de l'Union européenne et en Amérique du Nord ?
Je n'ai pas entendu le début de votre question, pardon.
Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces dérives sociologiques autour de l'illettrisme, du pot pourri de l'illettrisme dans les autres pays de l'Union européenne et en Amérique du Nord ?
Ça, c'est une question. Il faudrait, j'allais dire, faire le même type de travail que j'ai mené sur la France dans tous les pays pour se rendre compte que les problématiques sont très, très différentes. Très différentes. Il y a des pays qui sont dans des logiques encore presque de lutte contre l'analphabétisme. Vous trouvez ça en Italie. Vous avez des pays qui mettent le critère à un certain. Enfin, mettent la barre à un certain niveau et d'autres à un autre niveau. Il faudrait montrer que, selon les problématiques scolaires des pays, selon leurs problématiques culturelles, selon leurs traditions pédagogiques, etc., on va avoir affaire à des discours très très différents sur le sujet. Et puis, le terme d'illettrisme, alors, illettrisme est strictement français. Hein. On est en train d'inventer un autre terme qui est celui d'illittératie, sur la base des termes anglo-saxons. C'est aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout le monde parle de la même chose d'un pays à l'autre. Ça, c'est clair. Oui, il y a des équivalents. Bien sûr que dans de nombreux pays de la communauté européenne, je ne pourrais pas dire dans tous les pays, mais je sais qu'en Suisse, par exemple, il y a des projets de reconnaissance par les cantons de l'importance de la question de l'illettrisme, des projets de vote sur la question. Il y a des pays comme l'Angleterre qui parlent d'illiteracy, etc. Donc oui, bien sûr qu'on en parle dans d'autres pays. On en parle aussi en Allemagne, on en parle... Voilà ce que je peux dire. Simplement qu'on n'en parle pas de la même façon parce que tout le monde n'a pas les mêmes traditions scolaires, pédagogiques, culturelles.
Bernard Lahire, je vous remercie.